L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine. Je suis ravi de vous retrouver pour cet hebdo. Comme vous le savez, sur Radio Patrimoine, eh bien, c'est la première web radio qui s'occupe de l'actualité financière, économique, immobilière. Et justement, on va s'intéresser cette semaine avec nos invités à l'investissement responsable, troisième baromètre de l'investissement responsable effectué par CPR AM avec l'appui d'Insight AM. Alors justement, quel regard les épargnants et les conseillers portent-ils sur l'investissement responsable? C'est une étude qui a été faite en fin d'année dernière sur justement ces épargnants, mais aussi ceux qui les conseillent. Est-ce que les épargnants français sont toujours disposés à investir responsable? Est-ce que d'ailleurs le consommateur durable est un investisseur durable? Et puis pour les conseillers, sont-ils à l'aise avec l'idée de proposer cette offre d'investissement responsable? La connaissent-ils? On va voir tout ça avec nos deux invités, nos deux experts du jour. On est ravis d'accueillir Arnaud Faller. Bonjour Arnaud.
Bonjour Fabrice.
Directeur général délégué en charge des investissements chez CPR AM et également en compagnie de Pascal Koenig. Bonjour Pascal.
Bonjour Fabrice.
Président fondateur d'Insight AM. Alors messieurs, on va largement débroussailler cette étude, voir effectivement si l'investissement responsable dont on parle beaucoup se traduit chez nos concitoyens. Voilà pour le sommaire de cet hebdo patrimoine, l'hebdo patrimoine spécial investissement responsable. C'est parti.
L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Arnaud Faller, on débute avec vous pour donner un petit peu de contexte sur cette étude. Étude, c'est la troisième, troisième année consécutive que vous la menez. Pourquoi ?
Alors, il nous semble que c'est important justement de voir l'ensemble des évolutions en la matière d'investissement responsable. Il nous semble que la fréquence annuelle est vraiment très pertinente. Pourquoi ? Parce que les évolutions sont rapides, que ça soit sur la demande, on va le voir, sur l'offre encore plus, et évidemment aussi sur la réglementation. Donc on a gardé le socle méthodologique et puis on a fait une nouveauté. Ce qu'on a gardé, c'est simple, on voulait avoir le double regard, tant tout d'abord des épargnants, donc via une enquête avec OpinionWay auprès de 1100 épargnants.
1132 exactement.
1132, voilà.
Enquête digitale réalisée du 1er au 8 décembre 2021, donc en ligne. C'est ça. Et ils sont triés, c'est-à-dire c'est pas monsieur et madame tout le monde, c'est quand même des gens qui ont un peu d'épargne, qui ont des comptes titres, des comptes PEA.
Exactement, des comptes PEA, des comptes titres, assurance vie, etc. Avec effectivement des gens qui...
Un minimum d'épargne, quoi, 10 000 euros, je crois.
Exactement. Donc important, parce que c'est assez... D'abord, c'est continu dans le temps, puisqu'on l'a fait trois fois. Et c'était important de sonder les épargnants. Et justement, l'autre regard, c'est les conseillers. Et les conseillers, donc là, cette fois-ci, on interroge, comme les autres années, les conseillers issus du monde de la banque privée et les conseillers issus du monde de la gestion de patrimoine, les conseillers en gestion de patrimoine indépendant.
Ouais, tiens la différence, parce que là aussi, plus de 400 professionnels, on va dire, CGP et banquiers privés. Banquiers privés, c'est-à-dire qu'ils s'occupent d'encours peut-être plus importants ?
Oui, et ils sont au sein d'une banque privée, par définition, donc ils sont moins indépendants. Et donc, en tout, la 430, donc... et c'est important parce qu'on veut justement, encore une fois, le double regard, parce qu'on verra, il y a des choses communes, épargnants, conseillers, puis il y a des choses qui diffèrent. Et cette fois-ci, pardon, et cette fois-ci, ce qu'on a innové avec, grâce à Pascal, on a voulu rajouter une phase qualitative. Et donc, Pascal a mené des entretiens auprès de quatre grands témoins. Issus de deux issus de la banque privée, deux issus du monde des conseillers en gestion de patrimoine. Et il y a eu des citations qui ont été reprises. Et donc, c'est pour ça. Ça permet franchement de rentrer dans le détail et de voir qu'est-ce qui compte le plus pour cette catégorie de personnes.
Ouais, d'ailleurs, il y avait Alexandre Neuvy, qui est chez Amplegest et directeur de la gestion sous mandat, malheureusement, qui ne peut pas venir. Il a chopé une petite maladie, là, qui est dans l'air du temps. Il aurait bien aimé, mais même en visio, c'était un peu compliqué. Évidemment, on lui envoie tous nos voeux de rétablissement. Le rappel du contexte, on en parlait, on est quand même dans une idée de très forte accélération de cette dynamique de croissance des fonds. Si on regarde, vous avez publié dans le nombre de fonds durables, 315 en juin 2020, et on est pratiquement au double, hein, 719 à fin septembre. Ça va très vite. Les fonds labellisés ISR suivent à peu près la même tendance. 649 fonds en juin 2021, 895 aujourd'hui ou en septembre, c'est-à-dire plus de 40% d'augmentation. On a l'impression que là, la gestion vraiment c'est, a mis des bouchées doubles pour transformer un maximum de fonds en fonds ISR.
Oui, on va le voir. Hein, c'est une des conclusions que Pascal, c'est l'offre. Maintenant, est au rendez-vous.
Oui, Pascal, c'est...
Oui, oui, c'est...
Ça va vite, en fait.
On a une accélération. Je pense que c'était bien que vous le souligniez. Et puis, surtout, ce que l'on voit, c'est... Il y a les encours aussi qui suivent, parce que d'avoir un nombre de fonds, c'est important, mais il y a les encours qui progressent énormément. On peut citer un autre chiffre qui est intéressant. C'est sur les fonds qui sont labellisés en Europe. On est à plus de 1600 fonds aujourd'hui et pour 1100 milliards. Donc, on voit bien qu'il y a une volumétrie qui augmente fortement, et on reviendra sur ce point parce que une des conclusions de l'étude, effectivement, c'est qu'on on rencontre maintenant un marché de l'offre. Je vais juste en profiter de ce petit moment pour revenir un petit peu sur le contexte de l'étude. Tout à l'heure, on parlait des épargnants. Notre panel, il est très spécifique parce qu'on a 73% de nos épargnants qui payent l'impôt. Donc ça joue énormément sur le point. Et sur la partie distributeur, donc c'est-à-dire CGP et BP, c'est des CGP et des BP qui travaillent essentiellement en stratégie patrimoniale. On a 95% des interrogés qui viennent de proposent ce type de service. Autre élément qui est
stratégie patrimoniale, on précise, hein, non. CGP, BP pour les acronymes conseil en gestion de patrimoine bancaire privé, et stratégie patrimoniale, c'est-à-dire que c'est une approche quoi holistique du bilan,
voilà,
du portefeuille du client.
C'est-à-dire qu'ils sont spécifiques et ils sont dédiés à ce type d'activité. Autre élément qui est important, c'est qu'on a 30% de notre panel qui a 150 millions d'encours confiés, donc ce sont quand même une part assez importante en matière de conseiller en gestion de patrimoine et de banquier privé, et avec 75% entre 1 et 10 salariés, donc ce qui nous permet d'avoir une belle vision, un beau panorama du monde du conseiller aujourd'hui.
Parce qu'on sait que c'est ils nous écoutent, hein, évidemment, nos amis conseillers en gestion de patrimoine. C'est une profession assez atomisée qui est en train d'ailleurs de fusionner. On voit pas mal de cabinets. Il y a pas mal d'actualités. On a fait une émission la semaine dernière justement sur ces rapprochements qui sont en cours avec les fonds d'investissement, évidemment, qui sont derrière. Ça intéresse en tout cas ce monde de l'épargne. Alors justement, on revient sur le baromètre. Ouais. Arnaud Feller, on va commencer avec une première grande conclusion. En tout cas, on voit que les épargnants sont toujours disposés à investir responsable.
Oui, c'est évidemment une des grandes conclusions. À deux tiers, les épargnants nous disent que l'investissement responsable est de nature à renforcer la confiance dans leur épargne. Et ça, c'est un chiffre qui était identique à celui de l'année dernière. Et ça, c'est important. Alors, juste un point, peut-être qu'on peut détailler, côté Pascal, tu peux détailler la segmentation qui était quelque chose de nouveau cette année.
Le profil des épargnants,
exactement.
Oui, alors ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler un petit peu sur les profils des épargnants. On les a structurés en quatre catégories. On a créé des personas, pour parler un peu marketing. Ces quatre catégories sont... les autonomes, donc qui sont en fait une population d'épargnants qui est assez forte aujourd'hui. Hein. Ce sont des épargnants qui font prioritairement confiance qu'à eux-mêmes ou à leurs proches pour investir. Ils représentent 36% de notre échantillon, donc c'est un pourcentage assez... D'abord, il est classique, hein, puisque c'est celui qu'on retrouve dans toutes nos études, et puis il est quand même assez fort. Ensuite, on a voulu créer un persona qui s'appelle les consommateurs durables. L'idée derrière ça, c'était d'essayer d'identifier si, lorsqu'on est un consommateur durable, est-ce qu'on est aussi un épargnant durable. Et donc, on va essayer de faire des rapprochements. Et tout à l'heure, Arnaud, il reviendra sur ce point. Qu'est-ce que c'est qu'un consommateur durable? C'est un épargnant qui privilégie la consommation durable comme mode de consommation principal. Il représente 41% de notre échantillon. Donc, c'est un pourcentage assez, assez large. Ensuite, nous avons les conseillers. Alors, ce qu'on a retenu dans les conseillers, c'est des épargnants qui font appel pour leur gestion de patrimoniale, soit à des banquiers privés, soit à des conseillers en gestion de patrimoine. Ils représentent 23% de notre échantillon. Et on a notre dernière catégorie qui sont les sachants. Alors bon, c'est un peu pompeux, mais l'idée des sachants, ce sont les épargnants qui connaissent au moins un peu l'investissement responsable. Ils représentent 43% de notre échantillon.
Ok, ça, on peut être sachant et autonome ou sachant et
conseiller. Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, on retrouvera, si on fait le lien entre les quatre catégories, c'est toujours à peu près les mêmes types de populations.
Et une question, tiens, sur le consommateur durable, est-il un appareil durable? On va y revenir, mais comment on définit un consommateur durable? Je ne sais pas, il a une voiture électrique, il mange bio, qu'est-ce que c'est?
Un consommateur durable, c'est qui privilégie en termes de consommation une consommation durable, c'est-à-dire à la fois en produits de consommation courant, mais aussi effectivement en termes de mobilité, en termes de choix de vie.
Ouais.
Il va se focaliser là-dessus. Mais on dit bien qu'il privilégie, c'est-à-dire qu'on n'a pas été vérifié ses actes d'achat. Il y a toujours ce petit écart. Ouais, on verra d'ailleurs, c'est un peu comme l'investissement responsable. Arnaud citait tout à l'heure le chiffre de 65% sur les deux tiers. On voit bien qu'en termes de détention, ce n'est pas le même pourcentage. Donc, on a bien ce rapport entre je privilégie et j'achète, quoi.
D'accord. Bon, donc, on connaît le panel. C'est intéressant. Donc, les deux tiers des épargnants qui considèrent que la dimension extra-financière de leur investissement est au moins aussi importante que la performance financière. J'ai l'impression que c'est une nouveauté, ça, Arnaud, parce que ce qu'on vous demande, vous, les asset managers, ceux qui géraient les fonds, l'argent, c'est avant tout une performance. Et là, c'est étonnant. Les deux tiers disent... Au fait, aujourd'hui, moi, je considère que l'extra-financier, donc les critères ESG pour environnemental, sociaux et de gouvernance, ces critères sont aussi importants.
Oui, je trouve que c'est ça. Effectivement, une grande nouveauté côté épargnant. À risque identique, ils disent qu'ils placent au même niveau l'impact avéré de leur portefeuille et la performance financière. Mmh. Et en gros, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il n'y a plus d'opposition. C'est clair, dans le temps, peut-être, il y avait un peu d'opposition entre le monde extra-fi et le monde financier. Maintenant, il n'y a plus d'opposition. Et donc, ils placent au même niveau. D'ailleurs, on évoque le chiffre des deux tiers, mais il y en a même 16% qui disent qu'ils mettraient même plus en avant l'impact avéré que la performance financière.
Est-ce que je me trompe si j'ai le sentiment qu'on vous demande de faire tout en même temps, aujourd'hui, c'est-à-dire de la perf, mais en respectant des critères investissement responsable?
Mais en même temps, encore une fois, nous, il nous semble que le côté gestion, c'est... on avait une vision dans le temps, il y a 5-6 ans au moins, voire plus... une vision à 180 degrés, c'est-à-dire qu'on regardait que la partie financière et pas le reste. Aujourd'hui, quand on achète une action, il faut regarder l'ensemble. Mmh. Et donc, il faut avoir une vision à 360. On sait très bien que l'un influe sur l'autre, ce qu'on appelle la double matérialité. C'est ce que fait la société, la corporate sur la société au sens large, et ce que la société fait sur le corporate. Et donc, c'est important. Et on voit bien, on sait très bien qu'une société qui ne respecte pas certains critères ou qui a des pratiques les moins disantes, un jour le payera, et ainsi de suite. Donc, franchement, et d'ailleurs, en termes de segmentation, pour revenir à ce fameux deux tiers qui place au même niveau l'impact avéré extra-financier et la performance financière, 74%, c'est encore plus fort pour les consommateurs durables, les conseillers, c'est 68%, et les sachants, c'est 72%. Mmh. Donc, les trois quarts pensent qu'il faut avoir un équilibre, en gros, entre la performance financière et extra-financière.
Mais ça résonne dans l'actualité, ce que vous dites. Les sociétés qui ne sont pas alignées, qui n'ont pas les bonnes valeurs ou qui ne les respectent pas, sont sanctionnées en bourse. On en a vu la preuve récente dans le secteur de la santé. On regarde les thématiques les plus recherchées. Respect de l'environnement, réchauffement climatique, éducation. Ça change, ça, ou c'est à peu près stable?
Non, ça change pas trop. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, évidemment que la lutte contre le réchauffement climatique est le thème numéro un, mais c'est classique. Et puis en plus, ça a peut-être eu une accélération avec la COP26. Ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, l'éducation se hisse à la troisième place et que l'emploi rebaisse un peu. Et l'éducation, on sait très bien qu'il est porteur d'avenir, ça concerne l'ensemble des épargnants, etc. Parce que l'éducation au sens large, c'est pas simplement l'éducation... des enfants ou des ados, etc. C'est aussi l'éducation tout au long de la vie professionnelle. On sait très bien que beaucoup de gens vont bénéficier des formations professionnelles pour rebondir, etc.
Pascal, vous voulez ajouter quelque chose là justement sur ces épargnants qui se transforment ou qui ont des nouvelles appétences?
Ouais, alors je vais rebondir sur ce que vient de dire Arnaud. D'une part, sur le point sur l'emploi et l'éducation, c'est véritablement des thématiques d'actualité, plus que réchauffement ou respect de la protection, qu'on voit depuis toujours, en fait, en tête de nos classements. Par contre, il y a une thématique qui a émergé fortement cette année, c'est tout ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement responsable. Donc là, on a peut-être un post-effet Covid, on peut dire, puisque on voit que ça progresse énormément par rapport aux années précédentes. Donc ça, ça remonte très fortement dans les classements. Si on veut parler des épargnants, moi, une des thématiques qui nous paraît importante, c'est comment la connaissance se diffuse aujourd'hui au sein des épargnants. Lorsqu'on a commencé le classement en 2019 avec CPR, on s'est aperçu qu'on avait 32% des épargnants qui n'avaient jamais entendu parler de l'investissement.
Un tiers qui...
Jamais entendu parler de l'IR. En 2020, donc l'année dernière, ils étaient 24%. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 18%. Donc, ça veut dire que 80% sait au moins de quoi on parle. Quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est très important. Alors, on a testé un autre mot, ou en tout cas un autre concept, c'est l'impact investing, hein, donc l'investissement à impact, pour voir comment les épargnants réagissaient. On commence un nouveau cycle. Et là, par contre, effectivement, on est à 56% des épargnants qui n'en ont jamais entendu parler. Donc, voilà. Donc, on va voir comment ça progresse. Mais effectivement, on a encore du grain à moudre sur ce sujet.
L'investissement à impact, Arnaud, c'est quelque chose que vous développez aussi chez CPR, le fait de peser justement dans la balance de cette transformation.
Et parce qu'il faut justement, il faut lever les derniers freins. Donc, quand on a interrogé les épargnants sur quels seraient encore les freins, donc c'est pas du tout les frais, c'est pas la performance comme on l'a évoqué, c'est le manque d'informations concrètes. C'est difficile pour eux des fois d'appréhender ce que ça veut dire l'investissement responsable. Ils sont en manque d'indicateurs d'impact. Mmh. D'où le fait, effectivement, il faut à tout prix mieux communiquer là-dessus. C'est déjà. On va y revenir du côté des conseillers, une demande des conseillers. C'est déjà intégré dans les gestions, mais maintenant, il faut à tout prix mieux communiquer. Et par exemple, nous, au sein de la maison CPR, on publie des rapports d'impact une fois par an, assez élaborés, hein, une trentaine de pages, et où on rentre en détail sur, effectivement, l'attrait de tel ou tel portefeuille et issu de telle ou telle valeur.
Voilà en tout cas pour cette offre. Je vous donne, la réaction d'Alexandre Neuvier, qui pas être avec nous, mais il a réagi dans l'étude. Il dit, à ce stade, nous ne pouvons considérer qu'il y a un emballement de la clientèle privée pour la gestion responsable. Donc on est plus conscient, mais on n'y va pas de manière proactive. Le marché répond à une logique d'offre plus que de demande. En fait, c'est lorsque, effectivement, eh bien, les conseillers, qu'ils soient CGP ou banquiers privés, en parlent. Et justement, on va voir dans un instant ce marché de l'offre. On fait une courte pause musicale, on se retrouve juste après avec nos invités.
L'hebdo patrimoine. L'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
donc sur Radio Patrimoine. The Boss, Bruce Springsteen, Dancer in the Dark.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Un Hebdo Patrimoine spécial investissement responsable avec deux experts, Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements chez CPRM, et Pascal Koenig, président fondateur Insight AM. On commente ensemble le troisième baromètre qui vient de sortir sur cet investissement responsable. On a vu que les épargnants français étaient de plus en plus appétants à mettre de l'investissement responsable dans leurs investissements. On va s'intéresser maintenant au marché de l'offre, Arnaud, et la deuxième constatation forte de l'étude, l'investissement responsable est véritablement devenu un marché de l'offre, Pascal ?
Oui, je peux le faire sur l'offre. Je crois que c'est un élément clé de l'étude. D'une part, parce que on a eu un inversement de tendance l'année dernière, assez clair sur ce point. Aujourd'hui, on voit que c'est pas la demande en tant que telle qui pousse ce marché-là. C'est surtout la proposition qui en est faite par les différents acteurs du monde de la distribution en produits d'épargne financière. Moi, j'ai quelques indices, hein, bien évidemment, qu'on a essayé de tester sur ce sujet. J'en citerai au moins deux. Je pense qu'Arnaud complétera très facilement sur ce point. Le premier indice, c'est la connaissance. On a quand même 71% des conseillers aujourd'hui qui sont pleinement à l'aise avec la notion d'IR. C'est-à-dire qu'ils sont capables de présenter l'IR à leurs clients d'une façon complètement simple,
décontractée. Et ça augmente d'une année à l'autre.
Et ça augmente très fortement. Et c'est aussi le cas pour les banquiers privés qui, eux, sont 94% se disent complètement à l'aise sur cette notion. Ce qui n'est pas le cas encore sur l'impact investing, hein, comme on l'a évoqué, puisque là, effectivement, ils ne sont que 31% à dire qu'ils maîtrisent fortement ce sujet, et notamment côté banquier privé. Mon deuxième indice, c'est la proposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 61% des conseillers qui déclarent proposer des solutions investissement responsables à tous leurs clients. Ce chiffre, encore une fois, il n'était que 52% l'année dernière. Donc c'est là où on a vu la bascule. Et en 2019, il n'était que de 28%. Et quand on regarde le pendant de ce chiffre, on voit que en 2019, il n'y avait que 23%. Pardon, les conseillers étaient à 23% à ne jamais proposer de l'investissement responsable en 2019. Aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est-à-dire ils proposent tous, alors soit à des clients spécifiques qui le demandent, soit à tous leurs clients, des produits d'investissement responsable.
Effectivement, pour appuyer totalement, il y a 3 ans, en gros, c'était un effet de mode pour la moitié d'entre eux, des conseillers. Et aujourd'hui, c'est plus du tout. Ils sont convaincus. Près de la moitié se disent totalement convaincus. Et donc, c'est pour ça qu'ils proposent naturellement à leurs clients l'offre, qu'ils connaissent de mieux en mieux, comme l'a évoqué Pascal.
Oui, eux-mêmes sont convaincus. Du coup, c'est quand même plus facile d'en parler à son client, voire de le faire investir.
Exactement. Et parmi les thèmes qu'ils privilégient, donc là, ils se retrouvent totalement communs avec ceux des épargnants qu'on a cités tout à l'heure. Encore plus, d'ailleurs, sur l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. À noter qu'ils ont cité aussi plus en plus de fonds multi-impact. On voit que là, il y a une petite percée, c'est-à-dire qu'en gros, ils étaient à 26% en 2020 et c'est passé à 51% parmi les fonds proposés, évidemment. Ce n'est pas les premiers, mais malgré tout, parmi les fonds proposés. Donc, à suivre de près, parce qu'effectivement, c'est aussi ça apporte beaucoup de sens de regarder plusieurs dimensions en la matière.
On apprend aussi qu'ils investissent, les amis conseillers en gestion de patrimoine de banques privées, dans la recherche pour sélectionner les produits idoines. On ne fait pas son marché tout seul, on se renseigne aussi sur ce qu'on va vendre.
Oui, Fabrice, là, c'est un point qui est clé. Donc, on a vu nos 4 indices. Hein. Le premier, donc, on l'a parlé, c'est la connaissance, la proposition, la conviction qu'a évoqué Arnaud. Et puis, il y a l'investissement. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'à 84%, les conseillers font leur propre recherche pour proposer leurs produits. Alors, ils s'appuient aussi à 51% sur la partie avec leur société de gestion partenaire. Mais on voit bien qu'ils se proposent sur ce sujet-là et qu'ils vont rechercher le bon produit qui va correspondre à leurs clients. Alors, pour conforter un petit peu notre vision sur le marché de l'offre, je voudrais juste citer Pascal Bossan, qu'on a gentiment interviewé, qui nous a bien voulu nous répondre. Et elle nous donnait la phrase suivante. Nos clients viennent chercher avant tout des solutions à leurs problèmes patrimoniaux, mais sont loin d'être indifférents à un dialogue sur l'investissement responsable. Donc on voit bien que l'offre, la proposition, elle vient d'abord du conseiller qui se propose comme un relais sur ce type d'investissement.
Oui, et alors, quels sont là aussi peut-être les freins qu'il faudrait lever, tant qu'on a vu du côté épargnant, mais côté conseiller. L'élément qu'ils nous mettent en avant, c'est qu'ils souhaitent des indicateurs aussi, là aussi, concrets, mais là, ils rentrent dans le détail, dès la construction de portefeuille. 40% des conseillers nous disent qu'ils voudraient que les gestions intègrent en amont, dans la construction de portefeuille, des éléments concrets d'impact, bien loin devant le reporting, qui est uniquement aux alentours de 25%, et encore plus loin devant la note moyenne ESG. C'est vrai qu'il y a pas mal de gérants qui communiquent sur, en gros, la note moyenne par rapport à l'indice ou l'univers, mais on voit bien que c'est largement pas suffisant.
D'accord.
Et que la demande des conseillers,
c'est... Ils vous demandent d'aller plus loin, finalement.
Ils nous demandent d'aller plus loin. Ils nous demandent d'aller en amont, dans la construction de portefeuille, quels sont les critères. Alors ça peut être évidemment l'intensité carbone, ça peut être le taux de recyclage des déchets, ça peut être aussi les quantités d'eau gaspillées qu'il faut éviter, etc. Et ça, c'est une demande d'abord. Ça répond aussi à leur propre appropriation, mais aussi, effectivement, pour illustrer à l'épargnant qu'est-ce que c'est l'impact, c'est plutôt une bonne idée de parler de ces ratios qui sont assez facilement compréhensibles.
Ouais. Chez CPR, bon, vous avez pris le virage aussi, bien évidemment, tout ce qui est ISR, ESG. Pratiquement, on s'appuie, vous aussi, sur de la recherche, sur des organismes indépendants pour faire de la sélection des valeurs, des fonds, etc.
Oui, alors... On s'appuie aussi sur l'expertise, évidemment, d'Amundi Group pour l'analyse ESG.
Votre maison mère, on le précise.
Notre maison mère. Et sur, encore une fois, ces indicateurs bruts, ce qu'on appelle bruts. Pourquoi ? Parce qu'il vient directement de la part des entreprises qui sont de plus en plus à même de vouloir aussi communiquer. Parce qu'une entreprise veut communiquer pour ses actionnaires, mais aussi pour ses salariés et ses clients. L'ensemble de l'écosystème sont assez bien alignés pour pouvoir dire oui, j'ai des indicateurs concrets sur lesquels je m'engage. Et donc, il me semble que c'est important que nous, on en tienne compte ex ante, qu'on suive au fil de l'eau. Hein, il n'est pas question qu'on s'endorme sur un chiffre ou faire confiance les yeux fermés. D'où le fait, d'ailleurs, qu'on retranscrit, donc encore une fois, ex ante dans les portefeuilles et aussi qu'on donne dans les rapports d'impact. Alors là aussi, quand on les a interrogés, les conseillers, ils nous ont demandé, mais à quel rythme vous voulez avoir ? On leur a demandé à quel rythme vous voulez avoir ces types d'informations. Et là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Plus de la moitié nous disent c'est ou bien annuel ou bien semestriel. Et là, d'accord. Pourquoi ? Parce que c'est bien clair que ce genre d'intégration dans les portefeuilles de suivi doit se faire à ce rythme-là. Et la tyrannie du reporting mensuel, qu'on ne regarde pas forcément, effectivement, il faut bien l'acter.
On s'intéresse également peut-être maintenant aux enseignements marquants. Voilà, après l'offre, la demande. Trois sous-thèmes qui se dégagent. La problématique du label, l'évolution réglementaire et la complétude de l'information. On démarre avec le label. Là, les conseillers font plutôt confiance au label pour répondre aux attentes de leurs clients.
Oui, très majoritairement. Mais les épargnants, c'est un peu moins vrai. Alors, il nous semble que pour les épargnants, il faut avoir en tête qu'il y avait une polémique dans le passé, qui est aujourd'hui dépassée, sur la gouvernance du label. Et en l'occurrence, elle a été modifiée. Et il y a une deuxième version qui arrive du label. Il y a une troisième en cours. Donc, côté épargnant, on pense que ça va finalement être derrière nous. En revanche, les conseillers considèrent qu'il y a un label. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, Alexandre n'est pas là, mais c'est exactement ce qu'il nous a fait passer comme message. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et donc à surveiller. Mais encore une fois, c'est vrai que le nombre de fonds labellisés montre partout. Et au CPR, on labellise de plus en plus de fonds. Mais encore une fois, on va encore au-delà.
Pour les conseillers, ce label, parce qu'il y a eu des témoignages aussi, c'est discriminant ou pas ? C'est important.
Le label, je pense qu'Arnaud l'a bien évoqué, et puis Alexandre aussi. Je citais tout à l'heure les chiffres de 84% sur le fait que les conseillers faisaient leur recherche propre pour proposer des produits qui soient le plus en adéquation avec les besoins de leurs clients. Lorsqu'on regarde dans cette même interrogation qu'ils répondent sur les labels, ils ne répondent qu'à 4%, comme quoi le label ne correspondrait qu'à 4% sur le sujet. Donc c'est bien le cas, c'est-à-dire que le label, c'est un préalable mais c'est largement insuffisant aujourd'hui pour répondre pleinement aux besoins de leurs clients. Et d'ailleurs, lorsqu'on interviewait nos témoins, ils nous disaient partout que la problématique du label, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est pas... ils ont besoin
pas évident de s'y retrouver
et qu'on n'arrive pas à retrouver exactement ce qu'on recherche dans le label aujourd'hui. Quoi.
Donc certains, c'est vrai, recréent aussi leur propre matrice à l'intérieur des sociétés de gestion, bien évidemment.
Oui, alors pourquoi c'est aussi difficile à pas s'y retrouver, c'est que l'articulation, et c'est le dernier point, c'est la partie évidemment réglementation financière. C'est compliqué parce qu'il y a une réglementation franco-française, il y a le label et évidemment il y a ce qui va arriver sur l'Europe. Mais l'articulation, donc on a connu d'abord SFDR, donc, hein, où il a fallu classer les fonds, donc en article 8, article 9. Donc l'article 8, pour rappeler, c'est j'assure la promotion des critères ESG. L'article 9, j'ai un objectif durable en amont dans le fond. Mais c'est un objectif de transparence, c'est-à-dire je fais ce que je dis ce que je fais. En revanche, la doctrine AMF, c'est prescriptif. Ça veut dire voici ce que j'ai droit de faire dans les fonds de catégorie 1, voici ce que j'ai droit de faire dans les fonds de catégorie 2 AMF. Donc, et ce qui est difficile, c'est que l'articulation n'est pas évidente, c'est pas fait par les mêmes personnes et pas au même niveau. Donc, et ce qui va arriver, le point important, c'est ce qui va arriver maintenant en 2022, en août. Donc, ça s'appelle MiFID, préférence ESG. Les épargnants seront interrogés via des questionnaires sur justement qu'est-ce qu'ils voudraient. Comme préférence ESG. Et alors, il y a trois dimensions qui vont être sur lesquelles il faudra à minima les interroger. La première, c'est la taxonomie. Donc, la difficulté là-dessus, c'est pas au niveau corporel, c'est au niveau activité. Donc, on essaye de splitter la totalité des activités qui sont, oui ou non, éligibles à la taxonomie verte au niveau européen.
Donc, la taxonomie, on rappelle, hein, rien à voir avec une nouvelle taxe européenne.
Non.
C'est la classification de l'impact, justement, des activités hein, qui sont bonnes pour la planète, qui sont vertes.
Donc, en ce moment, d'ailleurs, il y a un débat. La Commission européenne a sorti un texte qu'il faudra voir que le Parlement, oui ou non, le vote sur effectivement le nucléaire par exemple et le gaz serait éligible à la taxonomie.
Ah ça y est, c'est fait, c'est acté.
C'est acté par la Commission européenne. Il faut attendre que le Parlement vote. Aïe. Alors il y a des critères hein, sur le gaz, c'est pas la totalité des activités gazières. Première dimension taxonomie. Deuxième dimension sustainable investment, actif durable. Donc il va falloir là aussi demander aux épargnants exactement ce qu'ils veulent. Troisième dimension, ce qu'on appelle les principales adverse impact, donc en gros les effets indésirables adverses. Et là, il va falloir aussi que l'ensemble des sociétés de gestion, évidemment, répondent à la matière. Et surtout, c'est une des conséquences aussi de l'étude, apporte beaucoup de pédagogie aux conseillers, parce que c'est vrai que les articulations sont compliquées. Avec un enchaînement assez fréquent, hein. Vous avez vu, en 2020, 2021, 2022, il y a beaucoup de réglementations françaises, européennes qui arrivent. Donc, au sein de la maison CPR, on est prêt pour répondre à l'ensemble des questions sur justement l'articulation et sur les prochaines étapes, par exemple, encore une fois, préférence ESG, qui seront importants, une prochaine étape.
Voilà, des sujets, c'est vrai, un peu techniques, mais tout aussi importants. On termine avec l'information, toujours de l'information, mais concrète. Hein. On apprend qu'un peu moins de la moitié des épargnants soient des indicateurs explicites en matière notamment d'environnement.
Oui, parce qu'encore une fois, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est... c'est plus facile à expliquer comment est le process de sélection des titres avec des mesures concrètes. Encore une fois, par exemple, le taux de recyclage des déchets, etc., plutôt que de parler simplement de notation moyenne ESG. Ça, c'est les conseillers qui le disent, mais ils le disent parce qu'évidemment, eux aussi doivent exposer vis-à-vis de leurs propres clients, les épargnants finaux. Et donc, plus on rentre dans le concret, plus on illustre. Mais la bonne nouvelle, c'est que les corporates, encore une fois, sont prêts à le faire.
Et d'ailleurs, les entreprises. Des formations.
Les entreprises. Il va y avoir une directive européenne qui va d'ailleurs encadrer la totalité des publications de ces fameux indicateurs clés dans le monde extra-financier qui va arriver en 2023-2024.
Pascal, intéressant hein, tout ça. C'est vrai que c'est les trois sujets là, effectivement, problématique label, compétitude de l'info, évolution réglementaire. On sent que voilà, on est quand même au début de quelque chose qui se structure de plus en plus, dont s'empare l'Europe, mais qui suit une tendance de fond.
Oui, le point qu'il faut retenir, c'est l'absence de maturité encore hein, sur un certain nombre de sujets. On l'a vu, Arnaud vient de l'évoquer sur la partie reporting, hein, où là, effectivement, on a encore beaucoup de travail à faire et beaucoup d'informations à donner, et notamment sur la donnée en elle-même, on a encore des problématiques à régler, puisque effectivement, on ne la maîtrise pas de A jusqu'à Z, hein, cette donnée, puisqu'elle est... C'est une donnée qui est transformée et lorsqu'elle arrive à l'épargnant, elle a été transformée 2 à 3 fois, très raffinée, on va dire. Donc aujourd'hui, on a besoin de retravailler sur des données qui soient brutes et qui soient travaillées directement par les sociétés de gestion. Moi, le point, si je puis dire, noir aujourd'hui en complément, c'est la partie évolution réglementaire. Arnaud l'a très bien évoqué. Moi, j'assimile ça en fait à... Pour les gens de ma génération, au gloubi-boulga de Casimir. Hein. Donc tout le monde a sa recette et tout le monde y met un petit peu tout ce qu'il veut là-dedans.
Il faudrait uniformiser, c'est ça, avoir quelque chose.
Alors oui, en fait, là, on a une administration des autorités de tutelle françaises qui ont commencé très tôt à travailler sur ce sujet. Donc on a les Européens qui travaillent d'une autre façon et on a une évolution réglementaire qui a beaucoup bougé et maintenant on va avoir une taxonomie qui elle aussi bouge, hein, donc qui risque encore de bouger. Et puis effectivement on a des labels qui n'est pas un label universel aujourd'hui puisque chacun a ses méthodes et pour apporter sa vision du monde de l'ESG. Alors c'est un flou général, pas très artistique, on va dire, puisqu'il est plus que difficilement compréhensible, et notamment par les conseillers. Et les conseillers réclament, effectivement, qu'on les aide sur ce point. Ils ont besoin de formation. Alors nous, on a posé une question assez basique hein, auprès nos conseillers, c'est de savoir sur SFDR et de savoir si SFDR était à même d'apporter plus de clarté et de confiance dans les produits IR. Donc on a posé cette question aux conseillers et en fait à cette question on a 53% des conseillers qui nous disent qu'ils n'ont pas d'opinion. Donc ça veut bien dire qu'il y a un déficit de connaissances sur le sujet et un déficit de formation. Donc ça met bien en évidence le point noir qui existe aujourd'hui à quelques mois d'échéance MiFID du mois d'août.
Un mot de conclusion, Arnaud. On peut penser aussi à l'exemple de CBRM où on disait vous avez pris le virage. Comme disait Pascal, l'idée c'est d'aller vers plus de transparence, mettre à disposition des produits plus facilement traçables, reconnaissables.
Tout d'abord, effectivement, on intègre l'ensemble de la dimension ESG depuis maintenant pas mal d'années. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a 92% des fonds ouverts qui sont en cours responsables. Mmh. Donc, par exemple, classés article 8 ou article 9. Et l'encours des fonds labellisés n'arrête pas de monter aussi. Et les solutions à impact, c'est ça qui attire le plus. On a quasiment doublé les encours aux alentours de 4 milliards sur les fonds à impact. Et la gamme d'investissement, elle est maintenant de plus en plus riche. Et évidemment, ça s'applique plus naturellement au fonds thématique, que ça soit lié évidemment à la lutte contre le réchauffement climatique, à l'éducation ou à la chaîne alimentaire. C'est-à-dire qu'on a un fonds Food for Generation, on investit sur l'ensemble de l'écosystème du défi alimentaire, du champ à l'assiette, comme on dit. Mais on mobilise l'ensemble des classes d'actifs. C'est aussi adaptable largement à des gestions patrimoniales, parce qu'on sait très bien que les gestions patrimoniales, c'est évidemment les gestions assez favorisées par les CGP. Et donc, on a pu en faire pour un réseau, par exemple, une gestion patrimoniale axée sur le climat, la lutte évidemment contre le réchauffement climatique, qui mélange à la fois les actions et le crédit. On sait très bien que le crédit, c'est en termes de masse d'encours, c'est important aussi, parce que, c'est, d'ailleurs, dans le monde institutionnel, c'est encore plus gros, évidemment, que du côté action. D'ailleurs, sur le point important que vous avez mentionné, c'est effectivement l'information que demandait par les conseillers, mais aussi par les épargnants. Il semble encore une fois que les rapports d'impact, donc on les met à jour une fois par an, ils sont disponibles sur nos sites. Et les rapports d'impact, franchement, ça, on a eu beaucoup de bons échos qui fait le point sur l'enjeu du fonds, sur les actions menées, sur les fameux indicateurs clés que j'ai mentionnés, sur les rapports d'engagement envers les sociétés qu'on a en portefeuille, etc. Donc c'est assez riche et il nous semble que c'est en fréquence annuelle, c'est plutôt une bonne idée. Et dernier point sur le climat, évidemment que c'est quand même l'enjeu numéro un. Et on a complété la gamme avec un fonds sur l'hydrogène. On sait que l'hydrogène sera clé pour atteindre la trajectoire net zéro, comme on dit. Et on a lancé ce fonds hydrogène en novembre dernier avec un grand succès parce qu'il a déjà 300 millions d'euros d'encours.
C'est pas mal. C'est vrai qu'il y a un vrai engouement sur l'hydrogène avec des sociétés qui continuent à s'introduire en bourse en ce moment. Voilà. Alors après, est-ce que ça va continuer à flamber? Est-ce que ça...
Alors, c'est l'ensemble de l'écosystème hydrogène. Hein. Ce n'est pas que les petites sociétés ponctuelles.
Il y a aussi des grosses sociétés qui
investissent. Les grosses sociétés qui investissent, les États investissent beaucoup, mais les grosses sociétés aussi, ils ont compris, encore une fois, c'est clé. Alors, et l'Europe, d'ailleurs, pour être lead dans le monde, avec l'Asie, mais devant les États-Unis, et ça serait plutôt une bonne nouvelle.
Exactement. Bon, en tout cas, voilà pour ce baromètre de l'investissement responsable. Hein. On en sait un petit peu plus sur nos concitoyens qui, sans se précipiter, commencent quand même à y aller, à en mettre dans leur portefeuille, aux conseillers qui sont de plus en plus en pointe, qui planchent en tout cas sur le sujet et qui s'y intéressent. Merci à nos deux experts du jour, Arnaud Feller, directeur général délégué en charge des investissements donc chez CPRM. Merci Arnaud. Merci Pascal, Pascal Koenig, le président fondateur d'Insight AM. On vous retrouvera très bientôt pour parler hydrogène, justement, de ces nouveaux fonds, de ces nouvelles terres d'avenir et d'investissement pour tous les épargnants français. Merci de nous avoir suivis. Merci à David Payan qui a réalisé cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.